les infos à Washington.
Bon, il est 18h à Libreville au Gabon. Bienvenue au journal. C'est Nani Talani qui est à l'appareil. Au Gabon, les avocats d'Ali Bongo et Jean Ping sont d'accord pour recompter des voix de l'élection présidentielle du 27 août, mais sans s'entendre sur les modalités, alors que la Cour constitutionnelle doit se prononcer dans 3 jours. C'est ce qui a été indiqué mardi. Ce mardi à l'AFP. En RDC, l'Église catholique a annoncé ce mardi qu'elle suspendait sa participation au dialogue national en cours pour tenter de sortir le pays de la crise politique afin de faire le deuil après 48 heures de violence meurtrière à Kinshasa, la capitale. Il devra être clairement établi et stipulé dans l'accord politique devant être forgé à l'issue de ce forum que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à organiser le plus tôt possible. C'est ce qui est écrit la conférence épiscopale nationale du Congo dans un communiqué. Plusieurs personnes ont été tuées ce mardi dans de nouvelles violences à Kinshasa et des édifices ont été incendiés. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête. Lambert Mende, le ministre de la Communication.
Nous ne savons pas qui est auteur de cet acte, mais nous avons condamné comme gouvernement toute forme de vengeance privée. Nous avons encouragé le procureur général de la République à élargir l'enquête qu'il a ouverte hier sur les violences d'hier aux violences de cette nuit. Et nous attendons que cette enquête nous dise qui est à la base de cette violence-là.
Lambert Mende, ministre de la Communication en RDC. 3 sièges de partis d'opposition ont été incendiés, dont celui de l'Union pour la démocratie et le Parti social, le parti d'Étienne Tshisekedi. Idriss Fall a joint à Kinshasa Félix Tshisekedi, chargé des relations extérieures de l'UPDFS.
Cette manifestation se voulait pacifique, mais depuis le début, nous n'avons fait que essuyer des provocations en tout genre de la part du pouvoir.
Le ministre de l'Intérieur parle d'insurrection avec des policiers qui ont été tués.
L'insurrection, je crois que le mot est dur. Je pense qu'ils essaient de masquer leurs responsabilités durant toute notre marche sur le boulevard de Lumumba et en allant jusqu'au point convenu avec les autorités, c'est-à-dire au rapport du Maman Yémo. Nous avons été cassés par des grenades lacrymogènes pour conséquence d'énerver la population. Donc, il y a eu des débordements. Avant cette manifestation, nous avions tiré la sonnette d'alarme pour dire que le pouvoir est en train d'instrumentaliser des jeunes gens en les armant d'instruments divers, des machettes, des gilets et autres, pour que le jour du 19 septembre, donc hier, ils se sont mués en casseurs. Les dégâts qu'ils ont commis avaient pour objectif d'être mis sur notre dos. Et aujourd'hui, on nous fait passer comme ayant commandité ces actes répréhensibles. Nous n'avons jamais, jamais orchestré des attaques sur des biens privés ou autres de l'État. Donc ce n'est pas vrai. C'est une manœuvre qui voulait anticiper sur ce qui va arriver afin de nous museler davantage. Et aujourd'hui, nous déplorons d'ailleurs la mort de 7 personnes affectées à la sécurité de notre siège. Le siège de quel siège a été attaqué cette nuit entre 2h et 4h du matin. Il y a un commando armé lourdement qui a débarqué au siège, qui a tout brûlé, qui s'en est pris à nos gardes en tuant 7, en blessant plusieurs.
Maintenant, quelle solution?
La solution, nous l'avions déjà préconisée en appelant la communauté internationale à s'impliquer pour qu'il y ait un vrai dialogue dans ce pays. Avec cette fois la complicité de M. Edem Kodjo, qui a été choisi unilatéralement d'ailleurs par ce même pouvoir pour devenir le facilitateur de ce dialogue, un facilitateur que nous avons contesté et nous en avons appelé à la communauté internationale pour qu'elle nous change de facilitateur. Nous n'avons plus confiance en lui. J'ai l'impression que nous n'avons pas été entendus et voilà le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des dizaines de morts, beaucoup de disparus, des centaines d'arrestations. Personne ne peut dire actuellement ce qui peut arriver.
Félix Tshisekedi, chargé des relations extérieures de l'UDPS. En Somalie, 5 millions de personnes, soit plus de 40% de la population du pays, vivent en état d'insuffisance alimentaire. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui a appelé la communauté internationale à débloquer des fonds supplémentaires. Ce chiffre, en hausse par rapport à février 2016, comprend 300 000 enfants âgés de moins de 5 ans qui sont en situation de malnutrition aiguë, dont 50 000 sévèrement sous-alimentés. Selon une étude menée par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, 1,1 million de Somaliens ne peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens en nourriture et 3,9 millions ont besoin d'aide pour éviter de se retrouver dans la même situation. En Afrique du Sud, l'augmentation des frais universitaires provoque la colère des étudiants à Johannesburg. La police a tiré des grenades assourdissantes pour disperser les étudiants qui protestaient contre l'augmentation des frais universitaires en 2017. Nathalie Barge.
Les étudiants ont manifesté dans plusieurs villes, dont Johannesburg et Cape Town, où les cours étaient suspendus. La police a eu recours à des grenades assourdissantes pour dégager une rue de Johannesburg bloquée par des manifestants. 31 personnes arrêtées pour avoir interdit l'accès au campus ont été libérées. Les étudiants dénoncent la recommandation faite par le gouvernement hier d'augmenter les frais universitaires jusqu'à 8% en 2017. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est engagé à prendre à sa charge l'augmentation des frais pour les étudiants les plus défavorisés. Mais la jeunesse sud-africaine réclame l'éducation gratuite pour tous. En 2015 déjà, la hausse des frais de scolarité avait suscité la colère de nombreux étudiants et contraint le gouvernement à geler l'augmentation pour 2016.
En Libye, 5 responsables des autorités parallèles, dont 4 officiers, ont été tués ce mardi dans le crash d'un hélicoptère dans l'est du pays, selon un communiqué du Parlement libyen, rival au gouvernement d'union nationale installé à Tripoli. L'hélicoptère se dirigeait vers Tobrouk après une mission officielle à Ras Lanouf, l'un des principaux terminaux pétroliers dans l'est du pays. Pour l'heure, les raisons du crash demeurent inconnues.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, le gouvernement est accusé d'être responsable de graves violations des droits systématiques et constantes, a conclu ce mardi une mission d'enquête de l'ONU mettant en garde contre de possibles crimes contre l'humanité et un grand danger de génocide. Les experts ont constaté que des violations graves des droits de l'homme ont été et sont commises en toute impunité, principalement par des agents de l'État et ceux qui sont liés à eux. Mais ils déplorent l'approche du gouvernement qui consiste à nier automatiquement et en quasi-totalité ces allégations. Les enquêteurs demandent des procédures judiciaires internationales indépendantes pour traduire les auteurs présumés en justice. Les enquêteurs estiment aussi qu'on ne peut quantifier exactement toutes les violations perpétrées et qui continuent d'avoir lieu dans un contexte aussi fermé et répressif que celui du Burundi. Ici, aux États-Unis, le principal suspect des attentats de Manhattan et du New Jersey sous les verrous est inculpé. Les enquêteurs tentent de lever les zones d'ombre de son parcours. Une série d'informations pointant une possible radicalisation du jeune Américain d'origine afghane. Les précisions de Tatiana Mosso.
Les images de l'arrestation d'Ahmad Khan Rahimi à Linden dans le New Jersey diffusées lundi montraient cet Américain d'origine afghane, âgé de 28 ans, allongé sur un brancard, le bras ensanglanté. Une responsable des autorités locales a indiqué qu'il a été également blessé à la jambe. Ahmad Khan Rahimi a été formellement inculpé lundi soir de 5 tentatives de meurtre sur policiers suite à la fusillade durant laquelle 2 policiers ont été blessés. La police continue l'enquête pour déterminer s'il a vraiment agi seul et quelles ont pu être ses motivations. La piste islamiste n'a pas été encore évoquée, même si les enquêteurs ont pu relever des signes clairs d'actes de terrorisme. De nombreuses informations ont émergé sur le fait que Rahimi avait été plusieurs fois en Afghanistan. Plusieurs médias ont également évoqué des écrits du suspect qui feraient référence à l'attentat à la bombe perpétré par les frères Tsen. Lors du marathon de Boston en avril 2013, qui avait fait 3 morts et 260 blessés.
En Syrie, les combats ont repris de plus belle. Un raid meurtrier à l'ouest d'Alep a entraîné la suspension des convois d'aide de l'ONU au lendemain de la fin de la trêve, faute d'accord entre Washington et Moscou. Des frappes aériennes ont touché des camions d'aide humanitaire, faisant 21 morts, dont 20 civils et un membre du Croissant Rouge. Les auteurs de cette attaque ne sont pas connus. Le régime syrien et son allié russe ont nié avec force en être responsables. À New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon a lancé ce mardi un nouvel appel à la fin des combats en Syrie et au début des négociations en ouvrant l'Assemblée générale annuelle. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau journal. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.